Vous écoutez, on lit pour vous.
Quad Stick, quand jouer devient thérapeutique. Un texte de Nicolas Turgeon paru dans le numéro 158 automne 2022 du magazine Paraquad. Chaque année, de nouvelles technologies voient le jour afin d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de divers handicaps, que ce soit pour redonner une autonomie physique ou un divertissement pour la santé mentale. Il y a le bras robotisé Jaco, Kinova, l'aidant robotisé à la nutrition Obi, des contrôles d'environnement comme l'assistant Google et Alexa, mais celui dont je veux vous parler aujourd'hui est le Quad Stick. Étant moi-même quadriplégique depuis 2007 suite à un accident de travail à l'âge de 22 ans, comme plusieurs, j'ai dû passer par un centre de réadaptation et apprendre à vivre avec mon handicap ainsi que tous ses inconvénients que je découvre encore en 2022. Mais bon, ça c'est pour un autre sujet. Restons dans le positif, si vous le voulez bien. Lors de mon séjour au centre de réadaptation Lucie Bruno, j'ai rencontré des ergothérapeutes travaillant pour la clinique d'accès aux aides technologiques du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal, centre de réadaptation en déficience physique Lucie Bruno. Plus précisément, la clinique d'accès aux aides technologiques, CAAT, axe son intervention sur l'utilisation des technologies pour réduire les situations de handicap liées à la communication, au contrôle de l'environnement, à la téléphonie et à l'accès à un ordinateur. Dernièrement, j'ai eu la chance de faire l'essai d'une toute nouvelle technologie, le Quad Stick. C'est une manette équipée de différents systèmes utilisant le souffle et la lèvre inférieure créée pour les personnes vivant avec une absence de mobilité des membres supérieurs. Il permet de jouer à des jeux vidéo sur des consoles comme le Xbox, PlayStation, Nintendo ou d'utiliser un ordinateur. Le Quad Stick contribue au maintien de la condition mentale et cognitive, c'est-à-dire qu'il permet d'être absorbé dans une tâche, de se valoriser par la réussite de certains défis, de centrer notre attention sur une analyse et un problème à résoudre, ainsi que de favoriser un sentiment d'indépendance. En d'autres termes, le gameplay est l'émotion directe contraire de la dépression et aide à oublier ses soucis quotidiens. J'ai eu beaucoup de plaisir à essayer différents jeux, que ce soit en solo, en ligne, en famille et avec des amis. Mes préférés sont les jeux de guerre, de course et d'aventure comme Call of Duty, Battlefield, Need for Speed, Forza, Star Wars, Assassin's Creed, etc. Par contre, certains jeux étaient beaucoup plus complexes, comme ceux de sport, surtout où l'on doit changer de mode très rapidement ou tout simplement ne pas pouvoir effectuer l'action demandée. En faisant l'essai du Quad Stick, j'ai pu voir s'il était bien adapté pour moi avant de me lancer dans les dépenses et justement, ça a eu l'effet escompté, soit de passer le temps de me changer les idées, de pouvoir participer à la collectivité, de me valoriser et avec la réussite de ce projet, à me motiver de plus en plus. C'était « Quad Stick, quand jouer devient thérapeutique », un texte de Nicolas Turgeon, paru dans le numéro 158, automne 2022 du magazine Paraquad.
Les délinquants du vapotage. Un texte de Philippe Mercure, paru le 1er mai 2024 dans la presse. Rarement voit-on des commerces contourner des lois de façon aussi effrontée, flagrante, insolente. Je parle ici d'une partie de l'industrie du vapotage qui, depuis 6 mois, se moque ouvertement du nouveau règlement québécois interdisant les arômes dans les produits de vapotage. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac vient d'envoyer une lettre de 50 pages au ministre Christian Dubé, Santé, et Éric Girard, Finance, dans laquelle sont détaillés tous les trucs utilisés par les délinquants de cette industrie. Ce qu'on y lit est absolument choquant. Si ces commerçants ne jouaient pas avec la santé des jeunes pour des raisons mercantiles, il faudrait saluer bien bas leur créativité. Résumons le dossier. Au Québec, le vapotage est en hausse alarmante. Entre 2013 et 2019, la proportion des élèves du secondaire qui disent vapoter a bondi de 4 % à 21 %. Devant cette catastrophe de santé publique, Québec a mis ses culottes et a adopté plusieurs règlements l'automne dernier. Le principal vient interdire les nombreux arômes qui rendent ces produits attrayants pour les jeunes, du popsicle fusé à la crème de menthe, en passant par le cappuccino et le beignet à la confiture. Comment les petits malins de l'industrie ont-ils réagi? En vendant des liquides de vapotage et des additifs aromatiques juste à côté. Ils prétendent que ces additifs servent à parfumer les boissons, mais personne n'est dupe. Des bouteilles de liquide de vapotage neutre sont même vendues remplies aux deux tiers, permettant d'ajouter le rehausseur d'arôme. Baveux, vous dites? L'enquête de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac montre que l'industrie peut être encore plus frontale dans ses manigances. Comme le tabac est désormais le seul arôme permis, certains commerces vendent des liquides où il est écrit « tabac » sur la bouteille. Le hic, selon la coalition, ces liquides contiennent dans les faits toutes sortes d'arômes. Des codes de couleurs sur les bouteilles permettent aux consommateurs de s'y retrouver. Une bande orange, par exemple, indique des parfums de mangue ou de fruits tropicaux. Voilà un autre pied de nez grossier au règlement. Une autre astuce consiste à expédier les produits interdits au Québec à partir de l'Ontario. Grande nouvelle, notre service d'expédition le lendemain est maintenant étendu à certaines régions de Montréal, peut-on lire en français, sur un site de vapotage ontarien. En clair, l'industrie se moque de nous. La preuve se trouve dans ce commentaire publié sur Facebook par la propriétaire d'une boutique de vapotage. « Venez nous voir en boutique. Vous allez être surpris des efforts qui ont été déployés afin de contourner le contournable », a-t-elle osé écrire. Comment arrêter le cirque? Il existe plusieurs visions à ce sujet. Il y a d'abord celle du ministère de la Santé, qui est loin de rester les bras croisés. On me dit que plus de 750 inspections ont été réalisées dans les boutiques de vapotage depuis l'adoption du nouveau règlement il y a 6 mois. Le hic, il n'est pas simple pour les inspecteurs de démontrer hors de tout doute que les arômes offerts sont vraiment destinés à être vapotés. Pour ça, plusieurs dizaines de dossiers, on me dit entre 30 et 40, ont été transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Québec espère des victoires en justice claires qui dissuaderont les délinquants et montreront que les règlements actuels fonctionnent. Mais, évidemment, qui dit système de justice dit délai important. De son côté, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac estime qu'il faut donner un tour de vis aux lois actuelles, tant provinciales que fédérales. Elle recommande notamment d'interdire la vente de liquides de vapotage et de rehausseurs d'arômes dans le même commerce, ainsi que de bannir la vente interprovinciale de produits de vapotage, comme c'est le cas pour le tabac. Ces solutions doivent certainement être explorées. Mais pendant qu'on le fait, il faut réaliser que chaque mois, de nouveaux jeunes deviennent accros à la nicotine à cause des produits de vapotage. Il y a pourtant une autre solution à déployer. Le directeur national de santé publique a déjà proposé d'exiger des permis pour la vente des produits de vapotage et, par souci de cohérence, de ceux du tabac. Actuellement, les commerçants qui n'affichent pas leurs produits n'ont besoin d'aucun permis. Ceux qui les placent à la vue des clients ont besoin d'une autorisation, mais pas d'un permis comme l'entend la santé publique. L'avantage de la proposition, c'est qu'on pourrait retirer les permis en cas d'écart de conduite. Il me semble que les dérapages actuels montrent la nécessité et l'urgence d'un tel mécanisme. Si, après cela, l'industrie continue à jouer au plus fin avec nos lois et avec la santé des jeunes, si elle se montre incapable de commercialiser des produits de vapotage de façon responsable, on devrait lui retirer ce privilège et le confier à l'État. J'ai déjà suggéré de confier la vente des produits de vapotage à la Société québécoise du cannabis. Pas dans les mêmes lieux. On veut éviter que les consommateurs de vapotage ne s'exposent aux produits de cannabis et vice-versa. Mais la SQDC a montré qu'elle peut commercialiser des substances psychoactives sans provoquer de hausse de la consommation chez les jeunes. Bref, on a une belle solution de rechange au bordel actuel. On devrait dès aujourd'hui réfléchir à cette possibilité en envoyant un message clair à l'industrie du vapotage. C'est votre dernière chance. C'était « Les délinquants du vapotage », un texte de Philippe Mercure paru le 1er mai 2024 dans La Presse.
La zone rose de Réseau dans le village, un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 août 2023 dans le magazine Fugue. Depuis le début août et jusqu'au 1er octobre, il y a du nouveau dans le village. Ce n'est pas une nouvelle boutique ou un restaurant, encore moins un sex-shop. C'est une zone rose. On ne peut pas la manquer. Un joli conteneur habillé de couleurs vives, avec un cône rose géant de presque 2 étages de haut sur le toit. C'est simple, c'est le tout dernier projet de l'équipe de l'organisme Réseau pour encourager les hommes gays, bisexuels et queers, GBQ, à se faire dépister pour le VIH et les autres ITSS. Jusqu'au 1er octobre prochain, on peut passer pour des tests pour ces maladies, mais aussi pour discuter, pour échanger avec les intervenants de Réseau. Il s'agit ici d'une collaboration avec plusieurs partenaires, dont des cliniques médicales. On y offre aussi, à côté, la vaccination contre la variole simienne, Mpox. Depuis quand date votre dernière séance de dépistage? Peut-être un petit tour à la zone rose s'impose? Devant le 1364 rue Sainte-Catherine-Est, non loin de la rue Panay, on y a aménagé une aire d'intervention, de discussion sans préjugés et de dépistage VIH-ITSS gratuit et sans rendez-vous, comme le mentionne le communiqué. Dépistage et prévention VIH et autres ITSS, infections transmissibles par le sexe et par le sang, telles que la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis et le VPH, parce que les chiffres ne mentent pas. Les hommes GBQ constituent encore la majorité des cas recensés. En 2021, les hommes GBQ représentaient environ 60% des nouveaux cas de VIH, dont une majorité dans la région de Montréal, selon l'INSPQ, Institut national de santé publique du Québec. Les hommes GBQ sont aussi à 98% infectés par la variole simienne Mpox. Il n'y a pas de statistiques, mais on sait que les hommes GBQ sont affectés par les autres ITSS, comme la gonorrhée, chlamydia, etc. Donc, se faire dépister, puis pour se faire traiter, c'est important ici, explique Alexandre Dumont-Blais, le directeur général de Réseau. À l'intérieur de ce conteneur climatisé aux couleurs chatoyantes, il sera possible de se faire dépister grâce aux infirmiers et infirmières des partenaires de Réseau qui inclut la clinique médicale L'Actuelle, la clinique médicale urbaine du quartier latin, la clinique La Licorne et la clinique CIDEP Plus du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. On pourra aussi discuter et échanger avec les intervenants de réseau, en plus de recevoir la vaccination pour la variole simienne Mpox, le VPH, ainsi que les hépatites A et B. Dès l'année dernière, une collaboration entre Réseau et le CIUS faisait en sorte qu'on avait établi des cliniques de vaccination de la variole simienne près du village. Près de 26 000 premières doses et 11 000 deuxièmes doses du vaccin contre la Mpox ont été ainsi administrées à Montréal. C'est donc quelque chose de différent qui est venu se rajouter à cette piétonnisation estivale. Mais en réalité, ce n'est pas si différent que ça, dit Alexandre Dumont-Blais. Nous sommes présents dans le village depuis 30 ans et nous avons un kiosque à chaque été depuis une quinzaine d'années à faire de l'intervention et de la sensibilisation. Donc on continue de faire ce qu'a toujours fait Réseau, mais cette fois-ci, on fait du dépistage dans un environnement plus confortable, agréable et climatisé. Mais on ne se le cachera pas. Installer un conteneur ainsi sur la voie publique représente bien des embûches en termes d'organisation, de réglementation, etc. Nous avons eu la collaboration de la Société de développement commercial, SDC, du village, de Fierté Montréal, entre autres. On voyait que les gens nous appuyaient et cela nous donnait de l'énergie pour continuer. On sentait que tout le monde voulait que ça fonctionne, souligne Alexandre Dumont-Blais. C'est un projet qui a été pensé il y a 3 mois seulement, mais qui a franchi bien des étapes. Nous avons eu du soutien de plusieurs partenaires pour y aller plus rapidement et passer à travers les règles de la ville, ajoute-t-il. Il y a eu, entre autres, l'agence Uppercut qui a fourni l'habillage artistique du conteneur et avec laquelle Réseau avait mis sur pied plusieurs campagnes publicitaires. De plus, le soir, lorsqu'il fait sombre et que le tout est éclairé, cela offre un aspect sans égal. Les pharmaceutiques Merck Canada, Vive Soins de Santé et Gilead Science Canada ont mis l'épaule à la roue pour soutenir financièrement cette initiative de Réseau, de même que la Banque nationale du Canada. Ce qui est intéressant est que même les touristes s'arrêtent, on l'a vu, ils nous disent « It's so nice, it's so cool ». C'est très encourageant et cela prouve qu'il y a un besoin pour ce type de service, dit Alexandre Dumont-Blais. L'engouement des partenaires est inspirant. Cela augure bien pour la suite, rajoute-t-il. On sait qu'un service direct de dépistage dans la rue va rejoindre beaucoup de gens qui, pour bien des raisons, n'ont pas pu se faire dépister. Donc, est-ce qu'on peut le faire 6 mois par année? Est-ce qu'on peut devancer la date d'installation du conteneur dès le début de la piétonnisation? Il y a plusieurs questions qui se posent, mais l'appui des partenaires ici est intéressant parce qu'on sait que le projet peut évoluer, qu'il a le vent dans les voiles. Mes équipes et moi appuyons fièrement la zone rose de Réseau. C'est une initiative inspirante qui s'inscrit directement dans une vision de réappropriation des enjeux de santé publique par les communautés. C'est un modèle à suivre et à reproduire, a déclaré par communiqué la docteure Mylène Drouin, la directrice régionale de la santé publique de Montréal, et qui s'est fait connaître par son expertise lors des nombreuses interventions dans les médias durant la pandémie de COVID-19. Nous sommes déjà très confiants que ça marche. Déjà, dès les premiers jours où on installait le conteneur, on voyait que les gens avaient beaucoup de curiosité. Ils s'arrêtaient, ils voulaient savoir ce que c'était et accueillaient favorablement le fait que ce soit du dépistage du VIH et ITSS. Cela nous semble très prometteur pour l'an prochain, indique le directeur général de réseau Alexandre Dumont-Blais. Horaire de la zone rose de réseau jusqu'au 1er octobre, du mercredi au dimanche, de 15h à 21h, et les dépistages de 15h à 19h en fonction de la disponibilité de nos partenaires cliniques. C'était la zone rose de réseau dans le village, un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 29 août 2023 dans le magazine Fugue.
Origno Académie, un texte de Judith Lachapelle, paru le 4 mai 2024 dans La Presse. Il ne se passe pas grand-chose dans la télé-réalité de l'heure en Suède. Pas de complot chuchoté, pas d'élimination fracassante, pas de maquillage, de paillettes, de gugus affichant le nom du commanditaire. Et pourtant, des milliers d'internautes sont rivés à leur écran pour regarder des orignaux. Les Norvégiens ont déjà diffusé de très longues émissions de télé en braquant des caméras sur un feu de foyer, un marathon de tricot ou une croisière de 5 jours dans les fjords. Mais les Suédois aiment aussi la télévision lente, « slow TV ». Quelle est cette émission printanière si populaire dans les chaumières? Ça s'appelle Den Stora Elgvandringen, la grande migration des orignaux. Et l'émission, produite par la télé publique suédoise SVT, en est maintenant à sa 6e saison. Depuis le 21 avril 2024, une trentaine de caméras et de microphones enregistrent la migration des orignaux vers le nord à partir de la région de Kullberg, située à environ 7 heures de route au nord de Stockholm. Les orignaux, qui entament ce périple depuis des millénaires à la fonte des neiges, passent par Kullberg pour gagner le nord. La diffusion en direct, qui attire des auditeurs de toute l'Europe du Nord et particulièrement les Allemands, se poursuivra au moins jusqu'au 9 mai 2024. Peut-être un peu plus longtemps, si les orignaux n'ont pas terminé leur migration, parce que, contrairement aux autres téléréalités, ce spectacle n'est pas arrangé avec le gars des vues. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? Quand on regarde en direct, il ne se passe pas grand-chose. Des orignaux qui se promènent dans les bois, qui se penchent pour mâchouiller une pousse verte, qui ruminent, qui secouent la tête et les oreilles, qui avancent de 2 pas en ruminant. Parfois, une caméra montre un autre point de vue. D'autres orignaux qui marchent sans se presser. Des rennes curieux. Une chouette ulule au loin. Des plaques de glace glissent sur le fleuve Angermanelven. Il ne se passe rien. Et c'est magnifique. Fascinant. Et quel est le clou du spectacle? Apparemment, le moment fort de l'expérience est celui où les orignaux mettent le sabot à l'eau pour traverser le fleuve. En 2024, les 3 premiers se sont aventurés le 1er mai après 10 jours de diffusion. Sur la fenêtre de clavardage, la liesse des téléspectateurs a fait exploser le fil de discussion. Il y a beaucoup de téléspectateurs dévoués, c'est fantastique. Ils font la fête avec nous, a commenté au réseau public SVT Nouetter, le producteur Stéphane Edloun. Mais je souffre avec ceux qui se sont levés du canapé et qui ont raté ça. Lors de notre écoute, les orignaux passaient beaucoup plus de temps à ruminer qu'à se baigner. Traduction, il fait 2 degrés dans l'eau. Baigne-toi, baigne-toi, s'indignait un dénommé Moulin dans le clavardage. 2 degrés quand même, ce n'est pas chaud, chaud pour les sabots. En effet, c'est tout de suite après la fonte des glaces. En 2023, le premier orignal qui s'était aventuré dans l'eau avait été repéré le 3 mai. C'est un téléspectateur assidu qui avait d'ailleurs alerté l'équipe de production. En tout, 21 orignaux avaient été vus en train de traverser le fleuve en 2023. En date du 3 mai 2024, selon le compteur qui s'affiche en bas de l'écran, 9 orignaux avaient traversé le fleuve. Est-ce qu'on y voit d'autres animaux? Bien sûr. Jusqu'ici, il y a eu des lynx, des ours, des loutres, des aigles, des rennes, un carcajou. Vendredi soir, les internautes s'émouvaient devant les images de grenouilles dans la Brunante. Et pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? Les orignaux québécois sont au moins aussi télégéniques que leurs cousins suédois. Là n'est pas la question. Au Québec, explique la biologiste Fanny Pelletier, professeure à l'Université de Sherbrooke, la densité de population d'orignaux est pas mal moins élevée qu'en Suède. Environ 95 000 orignaux ont été abattus par des chasseurs suédois en 2023, comparativement à 22 660 au Québec. De plus, la géographie du territoire suédois fait en sorte que beaucoup d'orignaux passent par Kullberg pour gagner le nord, augmentant les chances de capter leur déplacement sur caméra. Les caribous québécois, eux, migrent en harde vers le nord. Mais c'est tellement grand, le nord, dit-elle, et les caribous ne suivent pas toujours la même route. Pas facile d'installer des caméras dans ces conditions. Dommage. Ce serait une belle occasion de voir ce qui se passe dans la forêt. En effet, en Suède, la diffusion de la migration suscite plusieurs discussions. Les orignaux sont considérés comme une menace pour la croissance de la forêt, a d'ailleurs déploré cette semaine en éditorial le journal Aftonbladet. Le gouvernement suédois freine l'adoption par l'Union européenne d'une réglementation en faveur d'une restauration de la nature, a rappelé le journal, qui dénonce l'influence des sociétés forestières. Celles-ci ont d'ailleurs réclamé, l'automne dernier, de pouvoir abattre davantage d'orignaux. La forêt est là pour générer un profit maximum, conclut amèrement Aftonbladet. C'était Orignaux Académie, un texte de Judith Lachapelle paru le 4 mai 2024 dans la presse.